What's up? I lie.
Jingle. Bonjour et bienvenue au Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis animée par la compagnie Les Montures du Temps. Aujourd'hui, nous allons faire une petite parenthèse sur la question des prisons en donnant la parole en fait à deux textes aujourd'hui. Donc un texte qui s'appelle « Femme de parloir » de Dushka Maksimovic et un texte concocté par notre camarade et ami Combor qui s'appelle « Le chenil ». À ma gauche, j'ai tout de suite Josiane Vermar. Bonjour Josiane.
Bonjour.
Donc, on va faire un petit tour de table. Est-ce que tu peux te présenter ?
Je m'appelle Josiane Vermar. Je suis comédienne depuis quelques années maintenant, principalement sur la région lyonnaise. Je travaille beaucoup avec la compagnie Objectif Spectacle et notamment actuellement sur un spectacle que j'ai coécrit avec la comédienne Valérie Le Papelli qui s'appelle « On vit dans un monde merveilleux et mon chien a la rage ». C'est un spectacle d'humour mordant.
Voilà. Et qui joue en ce moment.
Et que nous jouerons jeudi 9 à 20h30 à la salle Léo Ferré dans le Vieux-Lyon. Et le spectacle sera suivi d'un débat citoyen.
D'accord, donc ça fait peut-être concurrence au spectacle dont on va parler aujourd'hui.
Oui.
Je laisse la parole tout de suite à Michel Laforêt. Michel, tu es comédien et metteur en scène. Et donc c'est toi qui as cette carte blanche pour nous parler de « Femme de parloir », un texte de Dushka Maksimovic.
C'est ça, bonjour. Oui, donc Michel, je suis comédien depuis aussi très longtemps. On a commencé d'ailleurs en même temps avec Josiane, metteur en scène dans ma compagnie, enfin notre compagnie parce qu'on est plusieurs, Boss Compagnie, BO2SE, pas comme un patron. Voilà, et on reprend donc ce spectacle « Femme de parloir » dont j'avais fait l'adaptation il y a 3 ans maintenant, qui a été pas mal joué à Lyon. Qui est tiré donc du témoignage de Dushka Maksimovic, de sa vie, et qui parle surtout des femmes de parloir, des femmes de détenus, femmes, mères de détenus, et même filles d'ailleurs, mais par rebond, forcément, parle aussi des conditions de vie des détenus, même si c'est pas le sujet principal du spectacle, c'est forcément... en arrière-plan, toujours, parce que ces conditions de vie, bien sûr, déteignent sur les conditions de vie des femmes de détenus et sur toutes leurs familles qui sont otages de ça. C'est un mot qui est très à la mode, ça, dire otage. Donc on va dire qu'ils sont otages de l'État. Et paf. Voilà.
À côté de moi, il y a Linda Zehani.
Oui, bonjour. Alors, je suis comédienne depuis quelques années. Et je suis ravie d'être là aujourd'hui pour accompagner Combor, pour lire son texte « Le chenil » et d'être là parmi vous. Voilà.
Et justement, Combor à la technique et à l'écriture. Bonjour Combor.
Bonjour, je suis chroniqueur à Radio Canu, le vendredi et le jeudi midi aussi, à la même heure.
Bonjour Combor.
Bonjour Combor.
Donc aujourd'hui, donc tu en as un petit peu parlé, Michel. On va parler donc de ce texte de Dushka Maksimovic, qui est un de ses deuxièmes textes. J'ai vu qu'elle avait écrit un texte avant qui s'appelait Parloir à quatre mains.
Oui, en vérité, elle en a écrit plus que ça. Elle a aussi écrit, mais je me rappelle plus du titre, une mairie sous une...
Radiographie d'une mairie de gauche,
voilà,
témoignage.
Voilà, radiographie d'une mairie de gauche.
Le taiseux est parti et des mots
alors
pour
ça,
ne rien
c'est
dire.
C'est un texte. Le taiseux est parti qu'elle a écrit après sur la mort de son fils qui est mort d'un cancer, un très très beau texte d'ailleurs, que bon, j'aimerais bien monter mais là on est vraiment dans le noir, et puis des mots pour ne rien dire qui là par contre n'est pas du tout un témoignage, qui est un texte sur la prison aussi, un texte de l'imaginaire on va dire.
peut rappeler que cette auteure est toujours vivante. Est-ce que tu peux nous parler un peu de son parcours, qui est un parcours très particulier?
Oui. Alors c'est une dame que j'aime beaucoup, que j'ai jamais rencontrée de vive voix, mais par mail.
Vous avez communiqué.
Ouais, très très souvent. Et donc elle était femme médecin du côté de Bordeaux. Elle a été mariée avec un militaire, ce qui, moi, quand on la connaît, peut paraître assez incroyable. Enfin voilà. Et puis à l'âge de 40 ans, je crois qu'elle exerçait plus au niveau. C'est quelqu'un de très militant, hein. C'est une pure et dure. Elle se définit comme une emmerdeuse patatée. Et je crois que ça la définit très bien. Et à l'âge de 40 ans, elle avait un copain qui lui a demandé de l'aider à donner des cours de français en prison. Donc elle a dit ok, elle est rentrée. Elle y est rentrée, comme elle dit. Et à partir de là, elle a tout de suite remarqué ces femmes qui attendent dehors. Et comme elle fait pas les choses à moitié, elle a voulu devenir visiteuse de prison. Mmh. Donc elle a repris les études, elle a passé, je sais plus ce qu'elle a passé en niveau études.
Alors, un diplôme de droit pénal.
Voilà, etc. C'est vraiment une furieuse. Hein. Donc voilà, elle a fait ça, elle est devenue visiteuse de prison pendant 10 ans. Et puis, à l'âge de 50 ans, elle avait une copine, elle avait pas beaucoup de copines dans ce milieu-là des visiteurs. Elle avait plus de copains de l'autre côté de la barrière. Et puis, voilà, une copine lui a proposé de donner ses coordonnées à un taulard qu'elle connaissait en disant « je pense qu'il va te plaire ». Et c'est comme ça que, par courrier, elle a rencontré Micha, qui était donc aussi un détenu condamné à perpète, 50 ans, le même âge, DPS, ce qu'on appelait DPS, c'est-à-dire détenu particulièrement surveillé, muet suite à deux cancers, grève de la faim, tentative d'évasion, enfin voilà, un pur et dur. Ils ont commencé à communiquer, ça n'a pas manqué, ils sont tombés amoureux. Donc à partir de là, elle a tout laissé tomber, elle a tout quitté. Elle est venue vivre à côté de Paris, lui il était à Poissy, la prison de Poissy, pour vivre à côté, pour le voir. Et voilà, elle l'a vu pendant un an, et puis au bout d'un an, elle l'a demandé en mariage. C'était un vrai combat pour se marier, ils se sont mariés en prison, puis à partir de là, elle a tout fait pour le faire sortir. Et donc voilà, maintenant ils ont, je sais plus combien, ils ont 75 ans, ils vivent tous les deux dans le Berry.
Libre. Donc c'est un happy end.
Ouais, c'est Roméo et Juliette en prison, quoi. C'est une très très belle histoire. Et ce texte raconte ça, même si ça c'est une excuse. Alors c'est une très belle histoire, en plus elle écrit vraiment très très bien. Mais en vérité, elle a écrit ce texte pour parler des femmes de détenues, dont on parle jamais, quoi. Et puis, en réaction avec un livre qui avait été écrit il y a quelques années, il y avait c'était une femme médecin, je crois, qui avait écrit un bouquin sur les prisons. Elle se faisait appeler la Madone des prisons. Et c'était la grande mode. Tous les députés rentraient dans les prisons. Ils ressortaient. Il y avait toutes les télés. Et puis ils disaient, oh, comme c'est vilain ce qui se passe dans les prisons. Et rien ne changeait. Et elle avait fait ce bouquin. Et quand Douchka l'a lu, elle a été révoltée.
Il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas dit aux auditeurs, c'est que Douchka s'appelait Paulette.
Oui, Paulette. Paulette. Alors ça aussi, c'est tout Douchka. C'est quelqu'un qui est très revendicatrice. Voilà, une personne très revendicatrice comme ça, et qui pour son mari, celui qui n'était pas encore son mari à l'époque, a tout laissé tomber. Enfin, elle a changé son prénom, elle a changé son nom, elle est devenue Maximovic, et elle a même changé son prénom. C'est Douchka.
On va faire une première petite pause musicale concoctée par Combor.
Je voudrais m'envoler sur le dos d'une abeille. M'envoler, c'est ça, sur le dos d'une abeille, celle qui m'a piqué la peau. J'voudrais m'accrocher à un rayon du soleil, grimper, grimper, grimper tout en haut. Salut gardien, excuse-moi, je t'enverrai une bonne bouteille. 25 piges, dont 5 au cachot.
Michel Jonas du début des années 80, d'ailleurs l'album s'appelle Les années 80 commencent, ça ne rajeunit pas, et donc c'était 25 piges dont 5 au cachot.
Et vous êtes bien sur le théâtre de la Gamelle pour une carte blanche à Boss Compagnie sur Femme de parloir de Dushka Maximovic. Donc on a parlé un petit peu de Dushka Maximovic, et qu'en est-il du spectacle en lui-même? Comment est-ce que vous avez travaillé la mise en scène de ce spectacle?
Déjà, c'est beaucoup partie de l'adaptation que j'ai faite, j'ai tout resserré, parce que le texte originel est très explicatif, donc il y a quand même encore une partie explicative, mais J'ai beaucoup resserré sur l'histoire de Douchka et de Micha, parce que je pense que c'est avec ça qu'on entraîne le public en prison. Et comme ça, ce qui permet, enfin voilà, il y a de l'émotion, etc. Et puis, avec toujours ce souci de rappeler que, un, c'est une histoire vraie, c'est pas un roman, c'est pas... Deux, on est en prison. On n'est pas à Venise en 1500, je ne sais pas combien. On est en prison, ça se passe toujours comme ça, ça a même empiré depuis. Donc la mise en scène est beaucoup dépendante de ça, c'est-à-dire que Douchka, Marie Nechel, qui joue, et qui n'a pas pu venir, il faut quand même que je le dise, qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'elle vient d'avoir un petit bébé, donc c'est pour ça que Josiane la remplace, mais avec talent. Et Douchka, Marie, a une adresse directe au public, elle va très souvent dans le public. Mm-hmm. Mais en même temps, la prison est présente par la bande son qu'a fait Olivier Lagier, qui est quelqu'un aussi de très très bien, et par le décor. Et moi, je joue donc le rôle de Micha, mais c'est à la fois, je voulais qu'il soit présent et absent. C'est-à-dire qu'il soit toujours présent par la parole. Il parle de temps en temps, alors qu'il est muet.
Oui,
oui, oui, mais c'est ça. J'ai pris des extraits de ses lettres. En vérité, je pense qu'il n'est pas tout à fait muet. Il doit parler, je ne sais pas comment on appelle ça, par une trachéo, un truc comme ça. Enfin, j'imagine, hein, vu que c'est pour un cancer qu'il a été... Mais il est toujours présent physiquement, donc je suis là, mais je suis derrière une bande de tissu un peu transparente, de dos. Donc voilà,
il est une scénographie plutôt simple, épurée.
Ce sont des tissus qui partent du plafond et qui tombent au sol et qui symbolisent à la fois la prison, la justice, vu la couleur, et puis qui changent selon les espaces. Et donc Micha est présent, il est toujours présent physiquement, mais il ne peut pas bouger. Il ne peut pas agir, et donc c'est Douchka qui agit pour lui, et c'est vraiment ce que dit le texte, hein. Elle est sa voix, elle est ses mains, elle est sa façon, elle est sa liberté. Il l'appelle ma femme liberté.
Au-delà de l'histoire d'amour, on l'a bien compris, entre Paulette du coup et Micha, c'est un texte qui donne la parole à ces femmes de parloir qui sont victimes, qui sont un peu condamnées en même temps que leurs frères, leurs maris, leurs fils qui sont en prison. Et comment ça s'articule dans le texte, ça ?
Elle raconte sa vie, donc elle croise toutes ces femmes et elle donne la parole à chaque fois à toutes celles qu'elle croise, enfin à toutes celles. Pas toutes, parce qu'on a été obligé de couper quand même. Mais et donc, elle donne la parole à ces femmes-là. Et puis, il y a aussi ce fait qu'elle, de par son histoire, va devenir une de ces femmes. Et elle va subir les mêmes choses, quoi. C'est aussi en ça que c'est un témoignage. Enfin, elle peut se permettre de parler parce qu'elle l'a vécu. Après, ça n'empêche pas que tout le long de la détention de Micha, alors elle était très chiante, hein, donc c'est une emmerdeuse, elle emmerdait tout le monde, enfin tout le monde, particulièrement la pénitentiaire. Et tout le long, elle s'est battue, mais elle s'est toujours battue pour des droits aux prisonniers, sur le droit de visite, etc., mais jamais pour elle seule. Et Micha était pareil à ce niveau-là, c'était une revendication, c'était une volonté ferme, affirmée, on se bat, mais on se bat pour tout. Et tout le long, d'ailleurs, c'est dit dans le texte à un moment, dans une lettre, tout le long, le directeur de la prison essaye de faire passer qu'elle se bat pour elle, donc on lui donne un petit truc en disant « vous avez des faveurs, alors venez pas vous plaindre ». Et elle, à chaque fois, elle dit non. Elle veut pas de faveurs, elle veut que tout le monde ait des droits.
Et est-ce que elle dénonce aussi les questions de surpopulation ou de suicide en prison ou de conditions de vie ?
Surpopulation, elle en parle pas vraiment. Par contre, les suicides, il y a d'ailleurs un très beau texte à un moment où elle raconte un suicide, enfin qui est un peu violent. Oui, elle raconte beaucoup ça. Elle raconte et puis elle raconte surtout elle cherche à redonner une dignité aux femmes de parloir. En gros, elle les considère comme des héroïnes, comme elle dit, coupables d'un amour malvenu, quoi. Donc elle leur redonne de l'humanité. Et en rebond, elle en redonne aussi aux prisonniers pour dire ce sont des hommes. Que ça vous plaise ou non, ce sont des hommes. Même si on fait tout pour l'oublier. Voilà. Donc mais elle est vraiment axée sur les femmes de détenus, et parce que je crois qu'elle est en admiration devant ces gens, ouais.
Leur courage, leur personnalité.
Oui, puis leur abnégation. Enfin, c'est quand même très très violent, quoi. C'est des femmes qui sont capables de faire, enfin voilà, 400 bornes en train, qui sont, parce qu'il faut le dire quand même, dans les prisons, ce sont surtout des pauvres, qui n'ont pas les moyens, qui ont des gosses, il faut faire garder les gosses, ou se trimballer 400 bornes de train pour arriver une demi-heure de parloir, des fois, ou des fois, bah non, vous pouvez pas le voir, quoi. Et puis voilà, et elles
et
ont...
sans explication, un mur...
Ah oui, bah elles n'ont aucun droit. Elles n'ont aucun droit, et en plus, comme le parloir n'est pas un droit, on peut l'enlever sans le justifier. Donc à partir de là, c'est le règne du... Enfin voilà, on déplaît à quelqu'un, il vous enlève le droit de parloir. Hein. Donc elles n'osent pas. Elles ne peuvent rien dire et elles n'osent pas. Et il y a des situations très très... C'est même kafkaïen, mais voilà. Et heureusement, il y a quelques associations qui travaillent, dont une qui intervient souvent nous dans les débats, etc., qui était FLD, Faites la lumière, enfin qui est toujours d'ailleurs FLD, Faites la lumière en détention, qui elle justement s'occupe de quand les femmes n'ont pas pu voir leur mari ou un problème, elle l'appelle, et comme elle leur doit aucun compte, elle téléphone, elle se bouge et ils peuvent pas faire pression sur elle, quoi. Mmh. Encore que c'est plus tout à fait ça, puisque maintenant elle est avec un dollar. mais voilà, elle aussi, c'est d'ailleurs, elle s'appelle Karine et c'est aussi une emmerdeuse patentée du genre de Douchka, quoi. Et c'est très bien.
Donc ce texte, vous le jouez les 9 et 10 février à Saint-Étienne, au Choc
au
Théâtre.
Choc Théâtre, oui.
Et c'est suivi en fait d'un débat avec plusieurs associations.
Le 9, oui, on a donc, parce qu'à chaque fois, moi, c'est toujours pareil, j'ai monté ce spectacle, je suis venu en tant qu'artiste, quoi. J'ai aimé le texte et tout, mais en même temps, on peut pas oublier que c'est un témoignage, que c'est du vrai. Donc, et j'avais aucune légitimité de parler des prisons, quoi. Donc, dès le début, j'ai voulu qu'il y ait des débats, des rencontres, et puis pour faire un retour comme ça, que toujours pareil, que les gens se rendent bien compte qu'on est dans une réalité. Et donc, voilà, on a toujours fait des débats, et donc là, il y en aura un le 9, alors il y aura le Génépi, le groupe du Génépi à Saint-Étienne qui se remonte.
Bon, je rappelle, donc, le Génépi, c'est un groupement étudiant national de l'enseignement aux personnes incarcérées, et donc c'est des étudiants qui sont bénévoles, qui font du soutien scolaire en prison, qui leur apportent des activités culturelles et autres.
Il y aura aussi, alors, Il s'appelle le GPSE, Groupe des prisons de Saint-Étienne. En gros, je sais qu'il y a la Ligue des droits de l'homme dedans, il y a des visiteurs de prison qui interviendront officiellement. Et puis ensuite, il y aura d'autres personnes qui veulent pas intervenir officiellement, mais qui de toute façon interviendront, j'en suis sûr. Il y a Radio Dio, puisque Radio Dio a plusieurs émissions en direction des prisonniers.
Radio Dio, c'est un peu le pendant de Canu
voilà,
à Saint-Étienne,
c'est la
dont le
la radio
slogan
historique.
Est libre, sauvage et impertinente.
Voilà.
Quelques émissions d'ailleurs sont diffusées sur Radio Canu, de Radio Dio, l'émission notamment Papillon autour des prisons.
Exactement, c'est tous les premiers dimanches du mois, je crois, ou dernier dimanche du mois.
Oui, sur Canu, non, mais c'est le mardi soir,
oui.
Je crois.
Et voilà, donc après, il y aura peut-être d'autres, il y en a plein, j'ai pas encore de réponse officielle. Il n'y aura pas... Bon, on a essayé d'avoir le SPIP, mais c'est pas parti pour. Il n'y aura pas de gens de la pénitentiaire parce qu'ils ne viennent pas. Donc, bon, après, c'est clair qu'on va être clair. Le texte, moi, ce n'est pas un texte objectif. Il prend clairement parti. Il est du côté des prisonniers. Et puis, de toute façon, après, on a quand même rencontré beaucoup d'associations avec la vie de ce spectacle. Et s'il y a un truc qui ressort à la prison, c'est qu'on est d'un côté ou l'autre, on n'est pas au milieu.
Non, c'est sûr.
ça.
On va peut-être faire une nouvelle petite pause musicale avant que vous lisiez un extrait. Qu'est-ce qu'on va écouter, Combor?
Francesca Solville, justement, sur les femmes de prisonniers qui attendent là, devant.
Six femmes étaient là, face à la porte en fer. L'une restait debout, cinq assises par terre. Huit enfants étaient là, face à la porte en fer. Et leur bouche ignorait encore le sourire. Six femmes étaient là, face à la porte en fer. Et des regards de djinns brillaient parmi les langues. À la porte en fer, leurs cheveux avec soin noués comme un secret. Huit enfants étaient là, face à la porte en fer. L'un d'eux gardait croisés les paumes de ses mains. Un gendarme était là, face à la porte en fer. Longue est la faction, la chaleur est en fer. Un cheval était là, face à la porte en fer. Un pauvre canasson, sur le point de pleurer. Un vieux chien était là, face à la porte en fer. Il avait le poil jaune et le museau très noir. Il y avait dans les paniers des poivrons verts, du charbon dans les sacs, de l'ail dans les besaces. Noble chant, mais si tu n'étais pas l'une de ces six femmes, moi j'étais à coup sûr parmi les 500.
Donc, Francesca Solville interprétait un texte de Nazim Hikmet, qui a beaucoup écrit sur les prisons, et celui-ci s'appelait « Face à la porte en fer ».
Oui, Nazim Hikmet est même resté plus de 25 ans en prison lui-même, dans les prisons turques, qui, je pense, n'ont pas grand-chose à égaler aux celles françaises, qui ont de gros problèmes elles aussi, mais je pense que la prison en France, comme en Turquie, comme partout ailleurs, n'est pas un lieu...
C'est
plus hospitalier.
C'est pas un lieu hospitalier, mais je pense quand même qu'en France, c'est loin, c'est pire. Enfin, pas que la Turquie, mais c'est quand même une honte, quoi.
Mm-mm.
Je veux dire, par rapport à l'Allemagne ou des choses comme ça, c'est...
Oui, je lisais un rapport, un rapport qui est assez vieux quand même, qui date de 2003, et qui fait état, en fait, d'une occupation de plus de 200% pour 10 établissements pénitentiaires de la densité normale, en fait, des prisons. Et une moyenne en général pour toutes les prisons, en fait, tous les établissements, de 126% de densité d'occupation. Et ça date que 2003, j'ai pas réussi à trouver les chiffres maintenant et j'imagine que ça a explosé. Mais donc du coup, on va entendre un extrait de ce texte de Dushka Maximovic, donc Femme de parloir.
Voilà. Alors l'extrait qu'on a pris, alors ce texte, c'est vraiment une plongée pour moi de Dushka qui va rentrer de plus en plus profond en prison. pour aller chercher son homme. Et donc là, on va prendre l'extrait du mariage qui est au cœur du spectacle, en plein milieu, là où c'est le pire jour de sa vie, ni plus ni moins.
Donc avec Josiane Vermaar qui remplace Marine Eschel.
Il arriva enfin ce mardi de nos noces. Le mardi était le jour imposé par la mairie. Nous n'avions pas le choix. Mes témoins ont dû prendre un jour de congé. Il fait déjà froid en ce jour d'octobre. Je me présente à l'entrée avec un petit bouquet d'iris et de roses, malgré la saison. Mon amie Marielle m'attend à la porte, frigorifiée et tout aussi émue que moi. On me prend le bouquet pour vérification. Marielle est ravie, parce que son homme sera là, lui aussi. Un parloir en rabe pour eux. La salle des parloirs est étrange. L'assistante sociale est là, avec trois surveillants. Sur une table, elle a disposé une magnifique gerbe de fleurs, cadeau des prisonniers. J'en ai les larmes aux yeux. Quelques verres et une bouteille de champagne que Micha a obtenue sur son pécule cantinable. J'ai eu toutes les peines du monde à faire entrer à temps les vêtements neufs qu'il porte ce jour-là. Faire entrer des chaussures, c'est interdit. On doit les cantiner. L'assistante sociale a obtenu une autorisation spéciale. Un contre-ordre est arrivé. Il s'est trouvé quelqu'un pour dire qu'il fallait les déposer au greffe et ne pas les lui donner. Il les trouverait à la sortie.
Bon, j'y vais comme ça, en chaussettes.
Il a fini par obtenir satisfaction, mais on a voulu les lui confisquer après la cérémonie. Il faudra qu'il se batte à nouveau pour éviter cette stupidité. Bêtise ? Ou volonté de casser ? Nous attendons le marié. J'ai les mains glacées et les joues brûlantes. On attend le maire, madame. On fera entrer le marié à ce moment-là. Pourquoi ça ? Il n'y a pas de parloir prévu avant la cérémonie. À partir de cet instant, je me mets à flotter dans un brouillard de souffrance que je n'avais pas prévu. Ce ne serait pas un vrai moment de bonheur. On allait se charger de nous le pourrir au maximum. Consentez-vous ? Oui, oui, nous consentons. Avant de passer l'alliance à mon doigt, Micha dépose un baiser dans la paume de ma main. Sans un mot de plus que ceux que le code impose, le maire me remet le livret de famille. Ça, au moins, je pourrais le sortir sans autorisation. Micha débouche lui-même la bouteille de champagne, un geste d'homme libre qui me donne envie de pleurer. On ne nous lâche pas d'une semelle, sous le regard des trois surveillants. Pas d'union charnelle, même fugace, nous restons immobiles. C'est l'heure. Pourquoi si tôt ? On nous a promis un parloir prolongé. C'est comme ça pour tous les mariages, on nous l'a bien dit. Votre feuille de parloir exceptionnelle ne comporte qu'une heure. Bien sûr, dans tout cela, rien ne nous est dû. À la limite, on aurait pu nous accorder juste le temps de la cérémonie. Certes. Certes. Micha me serre fort la main. Je ramasse le bouquet et le lui tends. La coutume veut que le marié ait l'autorisation d'emporter le bouquet de la mariée en cellule. Non, vous n'avez pas le droit. Le directeur était là quand on a inspecté votre bouquet. Il m'a demandé de m'assurer que vous sortiez avec. Je suis désolée. Visiblement, la pénitentiaire n'apprécie pas le mariage d'un perpète. Tout particulièrement pour ce perpète-là qui n'a jamais renié sa dignité. Il se situe parmi les prisonniers qui refusent l'avilissement tout autant que la compromission. C'est dur à cuire, souvent des PS à qui l'on fait payer leur attitude non conforme en essayant d'atteindre leur famille, leur femme de préférence. La déception, la tension sont trop fortes. Je me mets à pleurer.
Il faut te ressaisir, ma douce. Calme-toi. Ne leur donne pas la satisfaction de ton chagrin.
Nous ne prolongeons pas les adieux, c'est trop douloureux. Nous ne nous reverrons que le samedi suivant, car la brimade est raffinée jusqu'au bout. Les autres couples avaient eu droit à venir en parloir exceptionnel 3 jours de suite, les jours de congés légaux pour mariage. Pas nous. Bon sang, que c'est dur. Vais-je tenir comme ça pendant des années ?
Ma douce épouse, comme c'est difficile de te voir franchir la porte et de ne plus savoir comment tu vas d'ici le prochain courrier. J'ai emporté avec moi en cellule ton petit visage douloureux. Ils ont réussi à ternir notre joie, ma chérie. Mais il ne faut pas les laisser nous détruire. Nous sommes ensemble, m'amour. Désormais, nul n'a le pouvoir de nous atteindre. Notre amour est plus fort que la volonté de nous anéantir. J'ai foi en nous, en notre destin. Chérie mienne, essaye de te blinder un peu contre les déceptions. Sinon, tu souffres pour des choses auxquelles tu ne peux rien, surtout seule. Avec moi, mon trésor, regarde au loin. Même de ses propres illusions, on doit revenir. Même de ses rêves de beau et de propre. Avec lucidité.
Comme c'est doux, l'amour avec toi. Je suis le plus heureux des hommes. J'ai caressé 20 000 fois mon alliance avant de m'endormir.
Nous avons ce soir-là, pour être ensemble malgré les hauts murs, 2 anneaux qui brillent dans la nuit de notre solitude. Notre rendez-vous caresse n'est pas possible, car je ne suis pas seule dans mon petit appartement. La séparation des corps rend inventif. La chanson du geste est de l'amour, par délégation. Personne dans cette société endormie qui veuille penser une minute à ces couples qui s'aiment et qu'elle condamne à la masturbation partagée sur rendez-vous. On cautionne sans état d'âme la castration pénitentiaire en donnant de surcroît aux prisonniers un sentiment de culpabilité envers la femme qu'il aime. Mariage blanc d'absence. Mariage rouge de colère. Mariage, cependant, à la force de l'amour, envers et contre tout et tous. Je suis chez nous, seule. Je vais écrire la lettre quotidienne. Acte aussi important et inéluctable que celui de respirer. Acte vital pour toi, mon amour, qui attends l'air de ma liberté pour vivre au fond de ta cellule. Toi qui luttes avec toute ta dignité contre l'avilissement organisé et ordinaire. Acte vital pour moi, ta femme, qui doit vivre ma liberté amputée de la tienne. Lutter seule, tenir bon. À tes côtés. Acte vital pour nous deux, ensemble malgré la séparation des corps face à l'injustice. Quand mes mots te parviennent, ils sont déjà lus. Avant que mes mots caressent ne te parviennent, On a retourné mes mains pour en inspecter la paume. Quand mon corps absence s'offre à ta caresse, il est d'abord fouillé du regard par un lecteur voyeur. Quand mon âme s'unit à la tienne, elle est espionnée. Tu me manques, mon amour. Ma solitude est au creux de l'âme. Silence du corps. Appel. 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 Comme nous sommes fragiles, tous les deux avec notre amour soumis à l'arbitraire des punisseurs, aux aléas de la circulation des mots. Au début de notre vie de couple séparé, je me suis un instant débattue comme une abeille contre la vitre, me cognant aux brimades, aux angoisses, aux déceptions, aux attentes. Mais je voyais alors dans tes yeux la souffrance de mes souffrances. Il fallait que je te rejoigne dans ta force, sereine, pour ne pas te détruire. Tes geôliers n'attendent que ça, voir saigner le point sensible. Femme de parloir, ce n'est ni une fonction, ni un métier. C'est une noblesse. Une noblesse de la rue, du trottoir, de la galère, de la marginalité, de la liberté. Madame de parloir.
C'est un texte bouleversant. Il est publié actuellement, en fait.
Alors, oui, c'est... L'esprit frappeur, voilà. Il est en plus, il vaut rien. Il vaut, je crois, il vaut plus cher de port de pour l'acheter sur internet que de. Je crois que le bouquin est à 1 euro, 1,50 €, un truc comme ça. Alors vous faites gaffe parce que la couverture est profondément ridicule. J'ai jamais compris pourquoi ils mettaient cette couverture là. Et puis voilà, on le trouve sur internet. Donc c'est l'esprit frappeur. Il suffit de taper femme de parloir Dushka Maximovic. Enfin même femme de parloir tout court parce que Dushka c'est compliqué après. Mais et on le trouve facilement. Par contre ils sont très longs à envoyer le bouquin. Faut pas s'affoler.
Sinon on invite quand même tous nos auditeurs à aller au Choc Théâtre les 9 et 10 février prochains.
Et en plus il y aura des bouquins. Enfin s'ils arrivent parce que j'en ai commandé. Mais bon c'est pas sûr qu'ils soient arrivés à l'heure. Mais voilà. Et oui c'est un très très beau texte. Très très beau.
L'adresse du Choc Théâtre peut-être.
Oui, alors 24 rue Bernard Palissy à Saint-Étienne. Par contre, j'ai pas le téléphone sur moi, j'ai oublié de le prendre.
Mais peut-être qu'on peut trouver des informations sur le site de la compagnie Boss.
Voilà, et puis au pire, vous pouvez, si vous voulez réserver, etc., appeler la compagnie, du coup, parce que j'ai pas le téléphone du Choc. Donc la compagnie, c'est au 04 77 56 23 70. Voilà.
Et toutes les infos sur boss-compagnie.fr.
boss-cie.fr.
D'accord.
Un tarif d'entrée peut-être aussi, c'est important.
Alors oui, mais ça c'est le piège, je m'en rappelle plus. Je sais plus. Alors les places sont pas très très chères au Choc Théâtre, mais là j'ai oublié de prendre le tarif.
Est-ce que ça va jouer dans la région
Sincèrement, après, sur Lyon, je pense que c'est arrivé à sa fin parce qu'on a essayé de le jouer quand même pas mal. Voilà, donc on n'a pas eu beaucoup d'écho au niveau des professionnels, on va dire. On a eu par contre beaucoup d'aide des associations. Ça, c'est là, je suis en train d'essayer de leur donner une nouvelle vie, comme moi, j'habite maintenant près de Saint-Étienne. Donc voilà, ça, c'est les dernières dates de prévues, mais j'espère qu'en vérité, ce ne seront pas les dernières dates, mais au contraire. Un nouveau départ.
Bah, on espère, nous aussi, parce que c'était vraiment une chouette, chouette aventure et qu'il ne faut pas qu'elle s'arrête.
Voilà. Et je tiens quand même à dire merci à Josiane.
De rien, c'était un vrai plaisir, d'autant que j'ai vu le spectacle, que j'ai beaucoup aimé, que les gens à qui j'ai conseillé d'aller le voir ont beaucoup aimé. Donc, c'est vraiment un spectacle que je recommande à tous ceux qui pourront y aller. Voilà.
Voilà.
On va donc laisser la parole maintenant pour lire un extrait de Chenil. Chenil, ah oui, on va peut-être faire une petite pause musicale
parce que j'ai
avant.
Une petite pause musicale sur un autre ton puisque c'est Trust
ah oui.
qui interprète Mesrine. C'est pas mal, bah voilà. Ça dure 5 minutes, ça nous laisse le temps de nous mettre en place pour la suite.
Voilà.
Madame, il tourne en des milliers de pas qui ne mènent nulle part dans un monde de béton aux arbres de barreaux fleuris, fleuris de désespoir. Inhumain, rétréci sans aucun lendemain. Sa pitance s'est glissée sous une grille à terre et dans un pololo pour qu'il se désaltère. Il est seul, sans soleil. Esclave de ce vivant borné, il tourne, il tournera toujours jusqu'au jour où vaincu en animal blessé. Après avoir gémi en une unique plainte, il tombera à terre et se laissera crever pour trouver dans la mort sa seule liberté. Un jour de septembre 76 où j'existais si peu que je n'étais même pas personne. Fleurine Mérogis, un jour de septembre 76 où j'existais si peu. Mesrine. Je vous vois une larme, pourquoi vous attrister? Chien, me dites-vous, oh, voilà une erreur. Mais c'est un homme, madame, il est emprisonné. C'est celui que vos pères ont si bien condamné. En rendant la justice au nom des libertés, liberté. Et Fleurine Mérogis, un jour de septembre 76, où j'existais si peu que je n'étais même pas personne. Fleurine Mérogis, un jour de septembre 76, où j'existais si peu. Mesrine. Mesrine. Il tourne en des milliers de pas qui ne mènent nulle part dans un monde de béton aux arbres de barreaux fleuris. Il m'a rétréci sans aucun lendemain. Sa pitance s'est glissée sous une grille à terre et dans un bol d'eau pour qu'il se désaltère. Il est seul, sans soleil. Hey, Fleurine Mérogis, un jour de septembre 76, où j'existais si peu que je n'étais même pas personne. Fleurine Mérogis, un jour de septembre 76, où j'existais si peu. Mesrine. Mesrine. Je vous vois une larme, pourquoi vous attrister? Pauvre chien, me dites-vous, en voilà une erreur. C'est un homme, madame. Il est emprisonné. Il tourne, il tourne, il tournera toujours. Mesrine.
blessée, Pécherine. Il tombera à terre et se laissera crever.
La seule chose que je sais, c'est que je suis dans une cellule dont on ne s'évade pas.
Et nous revoilà sur le théâtre de la Gamelle, sur cette émission spéciale sur la prison. Combord, tu as écrit un texte qui s'appelle Le Chenil en 1984.
14. Quand même.
14, pardon.
En 1994, ça fait déjà 18 ans quand même.
Et ça parle de quoi ?
Et c'est une prison pour femmes totalement imaginaire, par contre celle-ci, qui s'appelle donc Le Chenil, où en fait il faut vendre tout et vendre son âme et son corps pour pouvoir s'en sortir à l'intérieur de cette prison. Et donc il y a différents types de femmes qui ont des comportements différents en fonction de ces consignes. Voilà, là ce qu'on va vous proposer c'est le début en fait, le tout début de la pièce. C'est pas encore très trash, après ça devient assez trash.
Donc avec Linda Zehani qui interprète ce texte.
Voilà.
Tous les deux. Je vais faire une... deux femmes d'ailleurs. Oui, il y en a une qui est courte au début. Et donc on va dire que c'est quand même la chronique paysagère.
Bah oui.
Et donc aujourd'hui avec une mise en abîme carcérale.
C'est drôle. Cette prison... C'est comme si quelque part déjà...
Dessus, dessous, partout travaillent les chaînes. Alors pourquoi pas dedans ? Pourquoi tu es là ?
Des dettes.
Moi aussi. C'est comme tu dis. Mon mari est mort. Il devait 1000 euros.
1000 euros ? Moi j'en dois 224 310 et 35 centimes TTC.
Si c'est comme tu dis, tu ne sortiras pas d'ici, sinon avec les pieds devant.
Mais j'avais cet argent. J'en ai même beaucoup plus. Seulement mon mari l'a volé. Il s'est sauvé avec. Quand ils le ramèneront, ils me le rendront.
Ton mari ou ton argent ?
L'homme, il peut courir. Mon argent est à moi.
Hé oh ! Laisse tes grands airs de pain bêche. Ici, c'est pour tous la même couche, la même vermine. Et tout se partage. Tout se partage en échange de conseils pratiques. Carte sur table.
Oh, pardon, je vous ai laissé penser que... rapport à l'argent... Mais pour vous dire franchement, je suis dans un trouble si grand que c'en est folie. Et qu'est-ce que je dois faire ? Je vous ai laissé croire...
Indisposé ? Oh, la cocotte ! Si ça pouvait t'aider à sortir autre chose que le sang.
Mais non ! Et dans certaines circonstances, c'est une prison de femmes, je crois.
Pas de jointure sans chalumeau, pas d'ouvrière sans salaire, je me tais à vous.
Une chose... Ses rapports aux enfants.
Ah, si que t'es grosse, va, ce ne sera pas le premier orphelin du chenil. Il y en a qui jamais n'ont rien vu d'autre que ce ventre tapissé de vomi. Gardien à toute épreuve, presque des animaux, car ils ont le choix pour prendre femme, et celle sur qui ils jettent leur fourche, elle peut être sûre d'être empalée jusqu'à la déchirure. Et le malheur ne fait que commencer. La vue du sang les multiplie. Il ne faut pas saigner devant les bourreaux. La geôlière leur laisse faire tout. C'est leur salaire. Qu'est-ce que tu veux ? Écoute, belle nouille, probable que tu ne sortiras jamais d'ici. Alors écoute-moi bien, parce que t'as l'air tellement gourde que t'aurais jamais idée d'où que se trouve ta dernière chance, tellement tu roupilles en esprit dans ton beau monde d'hier, visible. Dans ce château fort, c'est vers le plus obscur qu'il faut s'enfoncer, entends-tu ? Faut reprendre la leçon à la page 1. Ferme ta mémoire et ouvre tout grand les trous de ta peau.
Jamais. Jamais.
D'abord, il te faudra payer la geôlière pour la pension et tout.
Jamais.
Et payer un peu plus pour être mieux logé. Porter des chaînes qui ne t'empêchent pas d'aller et venir. Et puis, tu pourras vomir plus chastement, plus proprement. C'est important pour le moral d'une petite grue.
Grue vous-même ? J'irai droit au but. J'ai les mains blanches. Et c'est même mon nom. Blanche.
Blanche ? Blanche. Petite grue blanche, un point pour toi. Ça plaît généralement ces noms de pucelle. Tu vas pouvoir te mettre au travail. Un conseil, hop, tes boucles d'oreilles, file ça.
Vous rêvez ? Ce sont mes boucles d'oreilles. Je ne commence pas ce trafic puisque je vais sortir.
Aussi pur qu'un téton mordu par la vipère.
D'abord, ce sont mes boucles d'oreilles. J'ai assez de dettes dehors. Je ne vous dois rien, je ne dois rien aux femmes comme vous, c'est entendu ?
J'ai entendu, mais c'est faux. Si ces boucles d'oreilles sont dans ma poche, elles ne sont pas dans celles de la geôlière, entends-tu ? et dans la poche de la geôlière. Ses boucles d'oreilles seront tout simplement perdues. Mais moi, je te jure que ce sera tout comme un salaire pour moi si que j'empoche tes satanées boucles d'oreilles. Pour ce qui est de toi, évidemment, elles ne seront plus pendues à tes oreilles, ces boucles d'oreilles. Mais par contre, si la geôlière empoche les boucles d'oreilles, qu'est-ce qu'il te restera à la place des boucles d'oreilles? Des trous. Trous dans les poches, trous dans les oreilles. Le raisonnement est simple.
Assez! Assez de boucles d'oreilles, nom d'un petit bonhomme. Je ne veux plus vous entendre, plus rien. Vous allez me rendre folle. Jamais on a autant parlé de mes boucles d'oreilles. Je vais finir par les avaler, ces boucles d'oreilles. Et vous seriez là à attendre encore, voir ce qui sort de mon estomac, si c'est pas des boucles d'oreilles des fois qui résonnent dans la tinette.
Et c'est un marché tout ce qu'il y a de plus chouette. J'évalue ces boucles d'oreilles à, disons, 100 euros. Pour 100 euros, je te dis ce qu'il te reste à faire. Et peut-être tu tireras ton épingle du jeu. Ici, petite grue blanche en joue serrée, très serrée. On se fait invisible sous la toison d'un bélier qui couvre la sortie. C'est le seul chemin. L'unique. Sans m'étouffler à s'étouffer contre un puissant bélier. Première piste. Avance sur salaire.
Mais je n'ai pas 100 euros. Donc il n'y a pas de chemin et on en reste là. Pas de piste.
C'est tout tracé. Je connais tous les trucs du patelin, tu peux me croire. Regarde ma peau, tatouée par toutes les équations possibles et impossibles du chenil. Des années pour tracer ces sillons qu'on n'effacera qu'à l'acide.
Vous êtes
Allons vite, vite.
Elle défait les boucles, Blanche ne résiste pas.
Bien. Maintenant, qu'est-ce que t'as comme argent?
Rien, pas un centime.
Comment tu veux vivre avec ça? Eh, on n'est pas dans un foyer soda 4A. Tout se paye ici. Je ne dis pas que tout s'achète, mais tout se paye. Ne perds pas de ça de vue.
Tant pis. Je ne marche pas. On verra bien.
Eh bien non, on ne verra pas. Il faudra vendre tes dents, tes dessous, vendre ta langue, un œil, tes cheveux. T'as bien de la famille. D'où vient que t'es si bien mise?
Plus de famille. Cassé tout ça. J'ai pas fichu le camp pour aller pleurer après.
Oh, ça arrive de tomber du nid avant de savoir voler. À ce moment-là, faut gueuler jusqu'à ce qu'on nous entende. Mais peut-être le renard viendra avant la maman poule. Et c'est un risque. C'est toujours mieux que de pourrir dans sa sueur. Alors c'était ça. Les roulades dans les foins, la paille qui pique les seins, l'herbe sèche dans la culotte, grand remue-ménage sur toute la peau, ça gratte, goût salé sur les babines, oh je vois ça d'ici, et hop, ça y est, le nombril qui prend du large, coup de pied dedans, dehors, par le bas, par le haut, sitôt fini, ça se met à chialer, et tout le monde dehors, la pluie, les crachats, que les apothicaires, ils appellent la névrose. Douche écossaise. Le monde, il s'en branle. Il continue d'aligner ses bottes de foin. Dame, ça repeuple. Et derrière la grange, il astique ses bottes à pointe pour le retour des champs de la fille engrossée.
Mais non, je suis mariée. Vraiment. Je suis Madame Castel. Madame Ludovic Castel. C'est quand même quelque chose. Tenez, voilà l'alliance.
L'alliance. Oui, oui, bon Dieu, ça m'est égal que tu sois marié ou que tu aies couché sous les ponts de Saint-Pierre-des-Corps. Dans le temps, moi, j'étais poule de luxe, madame. Maintenant, qui voudrait de cette pierre de soufre qui n'offre plus un grain de peau lisse? J'ai même essayé de faire gratuit. J'étais bonne pour la cloche.
On entend un bruit de serrure.
Et un conseil, vends-lui ton alliance pour ce qu'elle voudra t'en donner, c'est la geôlière.
Fin de la scène 1.
Donc ça, c'est une pièce de théâtre que tu as écrite ou c'est un texte?
Oui, c'est une pièce de théâtre que j'ai écrite en... Donc, 1994.
Et vous l'avez jouée?
Elle n'a jamais été jouée. En fait, elle a servi pour moi pour essayer de comprendre la psychologie féminine. En réalité, j'étais en train d'écrire un livre qui a dû justifier d'ailleurs mon arrivée sur Lyon, sur le mouvement anarchiste, autour de la période où Sadi Carnot, président de la République, a été assassiné ici à Lyon. Et il se trouvait que j'arrivais de Nantes et que j'avais fait quelques recherches d'archives à Nantes et que l'anarchiste le plus en vue là-bas, il était aussi Macro. Et en fin de compte, tout a été démantelé, ça c'est l'histoire réelle, le réseau anarchiste nantais, puisque son officiel, qui était aussi prostitué, a été par jalousie en fait à donner tout le réseau anarchiste. Et je voulais que cette personne, c'est donc ça, c'est un roman qui s'appelle L'Attente, et je voulais que cette personne ne soit pas présentée comme une salope, et j'avais beaucoup de mal. Parce que, ayant donné tout le réseau anarchiste pour raison de jalousie. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse un travail autour de femmes en situation pénible. Pourquoi pas une prison et une prison extrême. Et donc, je me suis mis à écrire cette pièce, Le Chenil, pour essayer de débloquer ce rapport à la femme difficile que j'avais avec le roman que j'écrivais. Voilà.
Sadi Carnot, il a été assassiné. Je croyais qu'il avait trébuché.
Oui, il a trébuché. Mais il avait le ventre plein. Hein.
Ouais, c'est ça.
Bon, écoutez, je vous dis au revoir à tout le monde. Au revoir, Josiane.
Au revoir.
Au revoir, Michel.
Au revoir.
Au revoir, Anaïs.
Et puis, à la semaine prochaine, Combord.
De quoi qu'on cause la semaine prochaine?
Justement, c'est le grand surprise, puisque nous aurions dû avoir une invitée
Oui, je peux la dénoncer, je connais son nom.
On peut tous la dénoncer.
On va juste écouter une petite chanson de Barbara, mais je vous dis au revoir. Et puis,
voilà, Barbara, là, c'est aussi une mise en abîme. Hein. Dis, quand reviendras-tu?
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas, et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.